C'est écrit pour nous, une émission animée par Paul Calzada.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Heureux de t'accueillir à nouveau, Paul, dans notre studio de FM Évangile 66 pour ce rendez-vous trimestriel.
Merci, en vérité, la joie est partagée. Merci à FM Évangile 66 de m'ouvrir son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
Le pasteur Paul Calzada, bien connu dans l'Hexagone et à l'étranger, est très apprécié pour la qualité de ses enseignements. Ses publications en sont une belle démonstration. C'est pourquoi il est de plus en plus sollicité pour des conférences dans divers milieux pentecôtistes, baptistes, mais pas que. Le fil conducteur pour ce jour est le défi de l'unité. Paul, c'est le titre que tu as donné à l'un des derniers fascicules parus aux éditions Esdras. Peux-tu nous donner quelques précisions sur cette publication ?
Mais bien sûr, et avec joie. Voilà plus de 2000 ans que notre Seigneur a prié, demandant à Dieu, le Père, que les disciples soient un. Voici sa prière, qu'ils soient parfaitement un. On le trouve dans Jean au chapitre 17 et au verset 23. Or, l'histoire mouvementée de l'Église nous montre que l'unité a souvent été malmenée. Que de divisions, de schismes, de conflits et même de guerres au sein des Églises.
Tout cela pourrait laisser supposer que Christ a prié en vain, qu'il n'a pas été exaucé. Comment abordes-tu cette interrogation ?
Mais il ne faudrait pas tomber dans une telle conclusion, quelque peu hâtive. Heureusement que Jésus a prié en ce sens. Il savait que là allait se trouver le plus grand des défis pour ses disciples. Sa prière a permis à l'Église de subsister, de surmonter les querelles et les divisions, de rechercher cette unité siècle après siècle, en passant par des temps de repentance. Travaillons à construire et à préserver cette unité si chère à notre Maître, pour qu'au final, l'Église rassemblée soit unie au Seigneur pour l'éternité.
Nous reviendrons sur ce thème de l'unité, mais auparavant, je voudrais que tu nous parles des éditions Esdras, qui ont pris une nouvelle envergure sous l'impulsion du pasteur Guillaume Anjou, avec qui tu as déjà collaboré dans les années passées. Peut-on dire Paul et Guillaume, comme on dit Paul et Silas ?
Ce serait très prétentieux de faire une telle comparaison. Mais cette référence peut nous servir de modèle. Au sujet des éditions Esdras, riches à ce jour de 28 titres, nous avons décidé de mettre en vente ces livres au travers d'une association appelée Excaléo, qui a été créée fin 2018, décembre 2018. La particularité de cette association culturelle, déclarée en préfecture à Narbonne, c'est qu'elle a pour objet de soutenir et de favoriser l'économie sociale et solidaire par la vente de biens et de prestations de services.
Favoriser l'économie sociale et solidaire. Peux-tu préciser cela ?
Oui, avec plaisir. Cela signifie que cette association qui vend mes livres, mais aussi des bibles, d'autres livres, des biens et des services, ne fait aucun profit. Tous les bénéfices sont reversés à des associations humanitaires. Par exemple, bien que créées depuis peu, fin décembre, les ventes récentes ont permis de prendre en charge une dizaine d'orphelins à Madagascar pendant un an. D'autre part, cette solidarité, nous l'exerçons envers ceux qui ne pourraient acheter les livres, puisque le PDF de tous mes livres est offert gratuitement sur le site Excaléo.
Que voilà une belle chose. Et je remarque que c'est un pas de plus dans la générosité. Je rappelle ce que tu as déjà précisé à l'antenne te concernant. Tu offres ton travail, c'est-à-dire qu'aucune rémunération n'est attachée à ton travail de rédaction, un service que tu accomplis en pur bénévolat. Et le produit des ventes était réinvesti dans de nouvelles publications. Et maintenant, un acte de solidarité qui est comme une valeur ajoutée à ton service. Paul, peut-on en savoir plus sur cette association ?
Oui, toutes les mentions légales relatives à cette association, les statuts, les bilans, les produits à la vente, le concept spécifique de solidarité, etc., toutes ces mentions sont accessibles via Internet lorsqu'on va sur le site https://escaleo.com. Cette adresse est accessible via Google lorsqu'on tape le mot « Excaléo ». La transparence est notre ligne de conduite.
Peux-tu nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre de « Excaléo » Je l'épelle pour que auditrices et auditeurs qui souhaitent t'en prendre bonne note puissent le faire. E majuscule, petit X, C, A, L et accent aigu, O, tiré O.
La racine de ce titre est celle qui est employée en grec pour désigner l'église « Ecclésia ». Cette racine contient l'idée de sortir hors, et sortir hors des sentiers battus du commerce profitable pour aller vers un concept de commerce solidaire.
Avec les éditions Esdras, ceux qui souhaitaient commander étaient orientés sur Lézignan. Excaléo est localisé sur Narbonne. Comment cela se passe-t-il pour les commandes ?
Les commandes peuvent se faire par courrier. Toutes les commandes doivent être adressées, dans ce cas, à Excaléo, 1 boulevard Gambetta, 11100 Narbonne. Mais on peut également commander en ligne en allant sur le site qui a été précédemment mentionné, https://escaleo.com.
Revenons au défi de l'unité. Tu as mis le focus sur la prière de Jésus, qu'il soit parfaitement un, et tu as souligné combien cela s'avérait nécessaire au cours de l'histoire.
En effet, pour souligner que la prière de Jésus a été nécessaire au cours de l'histoire, je relèverai des faits contemporains où l'esprit d'unité inspiré par l'esprit de l'Évangile l'a emporté sur la division. Après le terrible génocide qui avait secoué le Rwanda en 1994, j'ai eu l'occasion de me rendre à Kigali, la capitale. Là, j'ai rencontré des pasteurs hutus qui, au péril de leur vie, ont, pendant le génocide, caché dans leur demeure des Tutsis. Ils ont mis en pratique la prière de Jésus. Cette prière a donc été exaucée dans ces cas.
Quel était le but de ta visite à Kigali ?
J'avais été invité pour prêcher dans le grand stade de Kigali sur le thème de la réconciliation. En effet, Hutu et Tutsi avaient bâti un mur de séparation entre eux. Aussi, mon message s'articula autour de ces versets de Paul aux Éphésiens, « Car il est notre paix, lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » C'est en Éphésiens au chapitre 2 et au verset 14. Il y eut un temps remarquable après ce message. Des centaines de participants se sont réconciliés en priant les uns pour les autres. La prière de Jésus venait d'être encore une fois exaucée.
Voilà des faits concrets très intéressants. Mais tu as fait référence à d'autres faits contemporains. J'ai hâte de savoir lesquels.
Ben, des bâtisseurs de murs, des dresseurs de barrières ont toujours existé. Pendant le long conflit entre les protestants et les catholiques d'Irlande du Nord, des murailles de briques séparaient les deux communautés. C'est alors que deux femmes irlandaises, Betty Williams et Mairead Corrigan, organisèrent des marches de protestation dans les rues de Belfast pour dénoncer les divisions fratricides. Elles rassemblèrent des milliers de familles catholiques et protestantes. Elles avaient décidé de construire des ponts et ainsi renverser les murs de séparation. Elles étaient animées de l'esprit de Christ et de la prière de Christ qui a prié pour l'unité des croyants.
Voilà qui est bon à entendre. On aurait tendance à ne relever que les aspects destructeurs des divisions et à oublier de tels faits où la prière de Jésus fut exaucée. As-tu encore un autre exemple ?
Ben oui, on pourrait citer encore l'exemple de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Le mur de l'apartheid ne faisait que dresser un fossé toujours plus profond entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. La séparation, la ségrégation faisait s'éloigner de plus en plus les perspectives d'unité au sein de cette nation. Mais un jour, le président Frédéric de Klerk et Nelson Mandela décident de renverser ce mur et de construire un pont entre les deux communautés. Alors que la guerre civile aurait pu anéantir cette nation, en renversant le mur de séparation, ces deux hommes, inspirés par Edmond Tutu, furent les artisans de paix pour aller vers l'unité.
Heureusement qu'il y a des renverseurs de murs, des bâtisseurs de ponts, inspirés par le message de Christ et qui sont des personnes par lesquelles la prière de Jésus a été exaucée. Mais pourquoi ça n'a pas toujours fonctionné ?
Ah, malheureusement, les plus grandes divisions de l'Église, au cours des siècles passés, ont été le résultat des guerres intestines, des compétitions de pouvoir, des concurrences malsaines, de la jalousie due aux réussites des autres, des oppositions de fortes individualités. La prière de Jésus n'a pas d'efficacité lorsque nous ne le laissons pas nous inspirer.
Donc, s'il y a des divisions, elles sont consécutives à nos inconséquences et non pas à l'absence d'exaucement de la prière de Jésus.
Exactement. Par exemple, quand les ministères, ou tous ceux qui remplissent un service, ou ceux qui exercent des dons, s'ils le font dans un esprit de compétition et non de complémentarité, ils favorisent les divisions. C'est pour cela qu'il est écrit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Galates chapitre 5, verset 26. Combien de fois les enfants de Dieu critiquent le travail et l'action des autres au lieu de se réjouir et d'encourager ce qui est fait par les autres.
C'est en effet un mal récurrent. Après la pause musicale, nous évoquerons la situation à Corinthe. Restez avec nous. Dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. D'où venaient-elles ?
On pourrait parler de clans. En effet, il est dit que certains étaient pour l'apôtre Paul, d'autres pour l'apôtre Pierre, d'autres encore pour Apollos. Non pas qu'ils n'aimaient pas les autres, mais ils avaient une préférence pour l'un ou l'autre des apôtres. Il est normal que la diversité des ministères produise ces choix plus ou moins subjectifs, en fonction de nos sensibilités, de notre maturité, de nos expériences. Mais Paul les ramène à l'essentiel, en leur rappelant que Christ doit rester et demeurer celui qui nous rassemble.
Cela semble facile de pointer les facteurs qui détruisent l'unité. Mais à contrario, quels sont les facteurs qui favorisent l'unité ?
Alors, l'un des facteurs qui favorise l'unité se retrouve au sein de la divinité. En effet, l'unité qui existe au sein de la divinité se traduit par la recherche de la gloire de l'autre. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père, et le Saint-Esprit glorifie le Fils et le Père. Quand le désir de voir l'honneur être accordé aux autres croyants nous remplit, cela favorise l'unité.
Peux-tu nous donner un exemple concret ?
Supposons que vous soyez deux disciples du Seigneur, membres de la même église, et que vous alliez distribuer des évangiles dans deux villages distincts. Vous avez témoigné à 20 personnes, et aucune n'a accepté le Seigneur. Votre compagnon a témoigné à 10 personnes, et 3 ont accepté le Seigneur. Comment réagissez-vous ? Êtes-vous heureux et extrêmement content du succès de votre frère ? Si oui, c'est qu'une unité sincère et profonde existe entre vous. Sinon, c'est que l'unité reste encore à bâtir. Là où elle doit commencer, c'est-à-dire dans votre cœur, en voulant l'honneur de l'autre.
Voilà donc un facteur d'unité important. Se réjouir du succès des autres. Peux-tu nous donner une autre piste ?
Oui, dans l'église de Philippe, mentionnée dans la Bible, dans l'Évangile, quelques tensions entre deux servantes du Seigneur sont mentionnées. Elles s'appelaient Évodie et Saint-Tiche, Philippiens chapitre 4, verset 2. Ce conflit avait des répercussions sur l'unité des croyants. Voilà pourquoi le thème central de cette épître est celui de la joie dans l'unité. Le chapitre 2 commence avec la mention des raisons qui doivent nous motiver pour arriver à l'unité. Dans Philippiens au chapitre 2, il est écrit verset 1er, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, une même âme, une même pensée. »
Peux-tu détailler ce texte pour nos chères auditrices et auditeurs ?
Alors, le texte commence avec le mot « si ». Le « si » en question ne signifie pas une supposition hypothétique. Le mot « si » est traduit dans d'autres versions par le mot « puisque ». Ainsi, la consolation en Christ et les autres choses qui sont mentionnées en suivant font partie du paquetage des disciples de Christ. Nous les possédons. Il nous suffit de les mettre en œuvre. L'apôtre Paul note 4 dons piliers, lesquels sont autant de motivations pour l'unité. La consolation en Christ, le soulagement dans l'amour, l'union d'esprit et la compassion avec la miséricorde. Pour atteindre l'unité, nous avons besoin que ces motivations données par l'apôtre nous inspirent.
En quoi la consolation en Christ nous motive-t-elle pour vivre l'unité ?
La consolation en Christ est un fait. Il est notre consolateur par l'entremise du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 14, verset 16. La consolation dont nous sommes l'objet nous motive à aimer et à consoler les autres. De la même manière, l'amour de Dieu, lorsqu'il remplit nos vies, nous motive pour aimer tous les membres du corps de Christ. Et enfin, j'ajouterai que la compassion et la miséricorde dont nous avons été l'objet de la part du Seigneur nous motive pour être à notre tour compatissant et miséricordieux envers les autres. Cependant, cela n'est pas toujours suffisant.
En effet, je pense à celui à qui le roi avait fait grâce de 10 000 talents. Il aurait dû, normalement, être motivé pour faire grâce à son compagnon qui lui devait 100 deniers. Mais il ne l'a pas fait. C'est expliqué dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. L'unité dépend donc aussi de la volonté de chacun.
Oui, l'apôtre Paul rappelle l'importance de cette volonté. Il dit dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » L'apôtre demande aux Éphésiens de faire l'effort de conserver l'unité de l'esprit. Parce que l'unité est fragile et pour l'entretenir, il faut que nous le voulions.
Pourquoi donc est-elle si fragile ?
Bien, parce que nous avons tendance, des fois, à mal accepter la diversité. Nous avons tendance à nous rapprocher de ceux qui ont des points communs avec nous et à nous écarter de ceux qui nous sont différents. Or, dans l'Église, Dieu a voulu la diversité. Comme le précisent les versets suivants, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens chapitre 4, verset 11, j'ai oublié aussi les évangélistes. Il y a donc diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 4.
Comment la diversité est-elle une richesse et non une source de division? Nous entendrons la réponse après la pause musicale.
Cette terre, Jésus nous a laissé un commandement. C'est un si grand mystère qui a fermé l'unité des croyants. De l'amour dont je vous aime, aimez-vous, nous dit Jésus. Aimez, c'est l'ordre suprême que je laisse à mes élus. Recherchons l'unité, nous qui sommes le peuple du Seigneur. Pourquoi se diviser? Travaillons ensemble et d'un même cœur. Nous formons un seul corps, animé par la vie de l'Esprit. Unissons nos efforts, main dans la main, soyons tous unis. Et quand vient l'ennemi pour détruire les liens que Dieu a établis, résistons fermement. Au nom de Jésus, il fuira promptement. Fais que rien ne nous divise, pour ton peuple racheté. Et qu'à jamais ton église demeure dans l'unité. Recherchons l'unité, nous qui sommes le peuple du Seigneur. Pourquoi se diviser? Travaillons ensemble et d'un même cœur. Nous formons un seul corps, animé par la vie de l'Esprit. Unissons nos efforts, main dans la main, soyons tous unis.
Nous avons laissé en suspens une question. Je la rappelle. Comment la diversité est-elle une richesse et non une source de division?
D'abord, il faut peut-être dire que Dieu aime la diversité. Il est le créateur de la diversité. Il a créé des milliers de fleurs, de plantes et d'animaux de toute espèce. Et dans chaque espèce, chacun est différent de l'autre. Les hommes n'échappent pas à cette règle. Nous sommes tous différents les uns des autres. La diversité est aussi dans l'univers que Dieu a créé. Les milliards de galaxies sont différentes les unes des autres. Oui, Dieu se plaît dans la diversité. Or, à notre niveau, nous avons besoin de faire un réel effort pour non seulement accepter la diversité, mais la voir comme un moyen de challenger l'unité.
Si j'ai bien compris, l'unité ne serait pas difficile à préserver si nous étions tous des clones, mais parce que nous sommes différents et diversement qualifiés et équipés, nous devons faire l'effort de voir la bénédiction qu'il y a à être différent. La diversité bien gérée renforce l'unité, favorise l'harmonie, construit l'équilibre et accompagne le développement de l'ensemble. Ainsi, maîtrisée, la diversité nous fait grandir les uns et les autres.
En effet, par exemple, la diversité des confessions de foi dans le monde évangélique nous lance un défi en ce qui concerne l'unité. On pourrait y ajouter la diversité des pratiques cultuelles qui nous oblige parfois à de véritables efforts pour conserver l'unité. Par exemple, ici, on chante debout et en tapant des mains. Là-bas, on chante assis, la tête courbée vers un recueil de vieux cantiques. Et que dire? Des mille et une manières de prier, de servir la scène, d'enseigner les enfants. Alors que faire? Se dresser les uns contre les autres, ou bien accepter nos différences?
Bonne question. Mais doit-on tout accepter et rester même là où nous sommes en opposition?
Voilà, cette question, comme bien d'autres, trouve sa réponse dans la Bible. En effet, on peut être amené à se séparer, s'il le faut, comme le firent Paul et Barnabas. C'est raconté dans Actes au chapitre 15, des versets 36 à 40. Mais, et c'est là ce qui était important, ils se sont séparés sans s'exclure et sans jeter l'anathème l'un sur l'autre. Voilà l'effort que nous devons faire.
Dans le fascicule que tu viens de publier, portant le même titre que cette interview, à savoir « Le défi de l'unité », tu évoques les sauterelles pour souligner quelques facteurs d'unité. Quels sont-ils?
En effet, j'ai pris ce récit qui se trouve dans les Proverbes, et nous trouvons cette déclaration, « Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. » Proverbes chapitre 30, verset 27. Le mot « division » dans ce texte nous parle d'une armée, avançant dans la cohésion. Les synonymes de ce mot sont « bataillon »,« compagnie »,« unité »,« escadron », »,« régiment ». Tous ces mots suggèrent l'importance de rester unis pour combattre et vaincre. L'adversaire cherche toujours à diviser pour régner.
On est en droit de se poser cette question, qu'est-ce qui les pousse à rester groupées, même si elles n'ont pas de roi, c'est-à-dire de commandant en chef ?
Même si leur unité n'est pas liée à la suprématie d'un leader charismatique. Il est des forces invisibles qui les obligent à rester ensemble. Ces forces invisibles sont le vent, pour une part, et les courants d'air ascendants dus au soleil. Elles n'ont pas besoin d'un roi, car c'est le soleil et le vent qui les guident. Bien sûr, c'est une image. Ces immenses compagnies de sauterelles ne se déplacent que pendant le jour. Dès que le soleil disparaît à l'horizon, elles se posent et dévorent ce qu'elles trouvent. Elles ne vont redécoller que lorsque le soleil a suffisamment réchauffé l'atmosphère. Comment ne pas penser à l'importance de laisser les rayons du soleil de justice, c'est-à-dire notre Seigneur, nous réchauffer pour nous permettre de nous élever et avancer ensemble poussés par le vent de l'esprit.
Seule, une sauterelle est faible et en danger. C'est ce que rappelle ce texte. « Je suis chassé comme la sauterelle » Psaume 109, verset 23. D'où l'importance de rester ensemble, n'est-ce pas ?
En effet, l'Écriture nous le rappelle. Malheur à celui qui est seul. C'est dans l'Ecclésiaste au chapitre 4 et au verset 10. Rechercher l'unité, c'est salutaire pour chacun. Mais cette unité est consécutive à la présence de Jésus qui éclaire notre vie et à l'action de l'Esprit qui nous dirige là où Dieu veut. L'unité qui peut se faire autour d'un homme charismatique est aussi éphémère que l'homme qui fait cette unité. L'unité qui se fait par l'action souveraine du Saint-Esprit transcende tous les clivages et amène la bénédiction.
Tu évoques également l'importance pour les sauterelles d'avoir une nourriture suffisante.
C'est exact. Les sauterelles qui n'ont pas suffisamment mangé pendant la nuit auront du mal à repartir lorsque le soleil réchauffera l'air. Ce qui nous permet de vivre l'unité, c'est aussi le fait d'être convenablement nourri spirituellement. Lorsque le message est nourrissant, équilibré, il favorise la cohésion et l'unité. D'où l'importance de la diversité des ministères pour que les croyants soient convenablement édifiés.
Y a-t-il encore une leçon que les sauterelles nous enseignent ?
Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'alors qu'elles volent très près les unes des autres, elles ne se cognent pas. Et même elles tourbillonnent de façon à se placer sur le devant de l'essai à tour de rôle. Il n'y a pas de sauterelle dominante. On peut y voir la pensée que le respect mutuel et l'humilité favorisent l'unité. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et nous avons besoin les uns des autres.
Des unions nationales, des fédérations et autres conseils nationaux se constituent de décennie en décennie. Leur multiplication apporte-t-elle un plus en faveur de l'unité ?
Pour répondre à cette question, j'aimerais rapporter ici une anecdote racontée par le pasteur André Pinguet. Voici ce qu'il nous raconte. Dans une vallée traversée par une paisible rivière, il y avait un magnifique élevage de canards. En fait, c'était une suite d'élevages, car chaque espèce de canard avait son enclos propre. Ici, les canards de Barbarie, là, les magnifiques colverts, plus loin, les canards mandarins, etc. Des clôtures séparées, les espèces les unes des autres. Un jour, une forte précipitation provoqua une inondation qui balaya les clôtures et l'on vit les canards barbotant joyeusement ensemble. Que de clôtures, de séparations, de dénominations, de chapelles, d'écoles de pensée, de particularités qui nous tiennent écartés les uns des autres. Certes, on crée des fédérations, mais chaque branche reste plus ou moins méfiante vis-à-vis des autres. Tous les efforts de rassemblement des croyants au travers de fédérations, d'alliances, de congrès, de mouvements œcuméniques sont louables, mais ils ne pourront jamais remplacer le rassemblement que provoque l'effusion de l'esprit. Plus que jamais, nous ressentons le besoin de dire comme le prophète « Esprit vient des quatre vents, souffle sur nos ossements desséchés et qu'ils revivent. » Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Après la Pentecôte, l'Église connaît une vague de persécution. Les apôtres Pierre et Jean sont jetés en prison. On leur interdit de parler de Jésus. Que fait l'Église? Elle prie. Et une nouvelle effusion de l'Esprit se produit. Actes chapitre 4, verset 31. Et le résultat de cette effusion saute aux yeux. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Actes chapitre 4, verset 32. L'effusion de l'Esprit, comme une eau qui a renversé la clôture des Cana, rassemble, unit, rapproche les croyants et fait sauter les barrières.
Une dernière question, Paul, pour clore notre émission. C'est certainement une utopie, mais si nous rassemblions absolument tous les chrétiens du monde entier, aurions-nous dans ce meeting du siècle, aurions-nous l'Église universelle?
Alors certainement pas. L'Église universelle n'a rien à voir avec la somme de toutes les églises. L'Église universelle est une réalité mystique, intemporelle. Elle est la somme de tous ceux qui, au travers des siècles et jusqu'à nos jours, ont accepté Christ comme leur sauveur et ont vécu, pour ceux qui sont décédés ou qui vivent, s'ils sont encore vivants comme nous, avec Jésus, une relation personnelle et véritable de foi. Et ce, quel que soit le milieu religieux auquel ils appartiennent ou ont appartenu de leur vivant. On peut être membre d'une dénomination portant le titre d'Église universelle, comme c'est le cas pour l'Église catholique, puisque catholique signifie universel. Et cependant, n'avoir pas accepté le salut que nous offre Christ. Combien sont nombreux ceux qui disent « Je suis catholique, mais non pratiquant ». Pour être membre de l'Église universelle, mystique et intemporelle, il faut que notre foi au Seigneur soit une réalité vécu au jour le jour. Pour terminer, je dirais que l'Église universelle sera réunie le jour où le Seigneur reviendra chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, ensuite ceux qui seront encore en vie, ensemble, seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi seront toujours avec le Seigneur. Là, voilà la réunion de l'Église universelle.
Merci, Paul. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle interview. Amen.